Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les spirites de la critique. J'ai nommé Daniel Eman de Marianne, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Pierrot Pierre Murat de Télérama et Michel Simon, Michael Simon de Positif pour parler de quelques films fantomatiques ou fantastiques signés Benoît Jacquot, Denis Villeneuve, Olivier Assayas, Jian Chouaib, Werner Herzog, enfin ce qu'il en reste, et puis également des films de Christian Mungiu et du film de Louis-Julien Petit, Carole Mathieu. Dans le courrier de la semaine, eh bien, les critiques du masque ont adoré Planétarium de Rebecca Zlotowski. Eh bien, pas du tout, les auditeurs. Bernard Douet du Perreux. N'en déplaise à la belle unanimité du masque et de la plume, aucun doute n'est possible. Le vide abyssal des étoiles que l'on entrevoit durant Planétarium a grandement inspiré le scénario de ce navet prétentieux. Adrien, sur vos conseils, vous allez voir. Planétarium, quelle erreur, les acteurs sonnent faux dès la première minute. Lily Rose Depp est faite pour être actrice comme je suis fait pour être danseuse étoile. Quelle supercherie, elle et le film, ou encore Pascal Hénard de Bourg-les-Valence. J'ai été étonné de votre unanimité. J'ai trouvé que la mise en scène de Rebecca Zlotowski était chiche. Chiteuse. Je n'ai pas été étonné lorsque j'ai lu qu'elle avait fait la Fémis. Et pour la Fémis de Planétarium, Christine Fink est sortie au bout d'un quart d'heure. Les actrices sont peu crédibles dans leur rôle de médium. Je n'arrivais pas à entrer dans cette histoire. Je me suis donc faufilé dans une autre salle et j'ai vu Tana, un beau film tourné dans une des dernières tribus traditionnelles du Pacifique. Seule Delphine Auriol de Paris pousse un cri du cœur. J'ai déambulé avec régal dans un univers qui jouit d'une belle liberté bordélique, qui est généreux en lèche-image. Il y a comme un petit quelque chose du cinéma russe, même si, bien sûr, j'y retrouve surtout l'ami Fellini. Il y a comme un air de Fassbinder aussi, mais le style est avant tout celui de Rebecca Zlotowski. Sa direction d'acteur est totalement dingue. Voilà, à propos de Mademoiselle de Park Chan-wook, il y a les pour, comme Victor Weinberg de Bruxelles. Superbe exercice de style à la gloire du cinéma, à son illusion, son imaginaire, sans oublier la beauté des images, les plus partagées, comme Safran de Montreuil. L'émotion s'amenuise au fil du déroulé de l'intrigue. Son côté faux chef-d'œuvre m'a gêné, et puis les vraiment contre, comme Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence, l'académisme de la réalisation et le côté « j'aime bien me regarder filmer » de Park Chan-wook nuisent à l'histoire qui, filmait plus sobrement, aurait pu être intéressante. Sinon, Éric Lepage n'est pas du tout d'accord avec le lynchage au masque et en règle du dernier Mel Gibson. Tu ne tueras point. Je n'avais jamais vu la guerre au cinéma filmée de manière si crue, drue, repoussante et révoltante. Et n'en déplaise à Daniel Eman, pour un film antimilitariste, c'est plutôt efficace. Enfin, un joli merci, ça c'est Stéphane Roland, qui est un Belge vivant au Luxembourg et qui nous dit « Merci, cher masque, pour me donner envie de voir, de lire, de débattre depuis tant d'années. Merci à tous pour les rires et les colères, les mauvaises foi et les bonnes âmes, et cette envie d'aimer la culture et cette terrible échéance qu'est le dimanche soir. Je me dois de vous préciser que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers sur La fille de Brest d'Emmanuel Berco et sur celui de Clint Eastwood que je vous réserve, enfin vous les auditeurs, pour le prochain Masque et la plume cinéma. Et on commence avec Premier Contact, le film du Québécois Denis Villeneuve, à qui on doit notamment Incendie, Ennemi, Sicario. Et là, Villeneuve s'essaie à la SF avec Amy Adams, Jeremy Renner et le colonel Forrest Whitaker. La formule, eh ben, elle est connue. 12 vaisseaux extraterrestres en forme de suppositoire XXL débarquent un peu partout dans le monde. Question rituelle, les visiteurs sont-ils des méchants ou au contraire des amis? Alors l'armée dépêche une linguiste, Amy Adams, au passé plutôt lourd, et un physicien, c'est Jeremy Renner, les deux d'ailleurs qui ne se détestent pas, pour tenter de traduire les intentions de ces aliens qui ressemblent un peu à des poulpes géants en promo. et qui s'exprime avec des taches d'encre, comme Pierrot, souvent d'ailleurs.
J'en fais plein, oui.
Pendant ce temps-là, la Chine se réveille et la guerre mondiale se profile. Ça dure près de 2 heures. Je suis sûr que... Ah, ça fait la une de Positif, bien sûr, ce qui est déjà un sacre en soi. Est-ce qu'il faut en parler, un film qui a fait la une de Positif? On en pense quoi, Jean-Marc, aux Inrock?
Je suis assez partagé. Je suis d'abord très séduit par le film. Notamment, je trouve que le stylisme, le design des vaisseaux... pour lequel c'était un petit peu ironique. Donc ces suppositoires géants sont quand même très très beaux. Il y a vraiment une réinvention de ce que serait qu'un vaisseau spatial, la manière dont il se déplace, dont il disparaît, dont il s'évapore. C'est très beau. Il y a vraiment un plan que je, enfin il y a une séquence que je trouve sublime. C'est quand une sorte de cage d'ascenseur dans lequel on monte verticalement, ouais, tout à coup devient un couloir où on avance horizontalement. Ça c'est parce qu'il n'y a plus de gravité et ça c'est vraiment très beau. Et donc il y a quand même au niveau de la direction artistique, de la mise en scène, la mise en place d'un univers sensoriel qui est totalement fascinant, qui est très beau. Moi, j'ai plus de difficultés avec le scénario qui finit vraiment par me perdre. C'est-à-dire que je suis toujours pas complètement sûr d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Oh. Et, il me semble qu'il y a une ambiguïté.
Même moi, j'ai compris alors.
Ah d'accord, mais tu vas m'expliquer. Alors, parce que moi, j'avais le sentiment que le statut de ce qu'on prenait pour des flashbacks au début du film, tout à coup, ça devient des flash forward. Et parce que tout à coup, il y a une courbure de l'espace-temps et on ne sait plus si c'est le passé, le futur. Et j'avoue que cette complication, ce côté très, j'imagine, mais ça m'a vraiment perdu. Ça m'a surtout semblé très alambiqué et finalement ça réduisait pour moi ce qui me semblait très ample au niveau de l'imaginaire dans la mise en place.
Daniel ?
Je trouve que les graffitis des aliens qui s'expriment par des sortes de graffitis ne rejoindront
c'est
pas...
C'est pas des graffitis, c'est des...
Oui, ce sont des traînées de langage, c'est un langage, et je pense pas que ça puisse atteindre dans l'imaginaire collectif et dans la mémoire collective les 5 notes inoubliables des rencontres du troisième type.
Hein. Ouais. Elles sont un peu vieilles. Hein.
Oui, elles sont un peu vieilles, mais elles sont inoubliables, et c'est un peu le même principe de la recherche du langage des aliens. Alors je trouve qu'effectivement, spectaculairement parlant, c'est très beau. Après, le mélo de science-fiction n'a pas vraiment réussi à me toucher. Et une fois que le dispositif est en place, elle y va, elle a du mal, elle y arrive, elle revient, elle retourne, elle repart, et alors elle comprend, elle croit comprendre,
non,
elle comprend pas.
Mais Jean-Marc, elle n'a pas compris.
Voilà. Et donc, voilà, j'ai été séduite par le dispositif, et une fois qu'il s'est répété pour la 7e fois, je commençais à trouver un peu lassant.
Michel, pourquoi Villeneuve à la une du positif et pas Carole Mathieu, par exemple?
On parlera de Carole Mathieu tout à l'heure, tu comprendras pourquoi c'était pas, ça n'a jamais été envisagé.
C'était une plaisanterie. Hein.
Je trouve le travail de Villeneuve passionnant depuis Incendie
et
Prisoners, qui est un renouvellement du film noir.
Même Sicario.
Sicario était très violent.
Moins fort, mais bien. Et là, je trouve que dans la science-fiction, il fait quelque chose, non pas d'absolument original, mais il est à contre-courant de la majorité des films de science-fiction américains, à part Gravity ou quelques autres, qui sont dans les effets spéciaux, l'accumulation d'héroïsation des personnages. Là, d'abord, il prend comme personnages principaux une linguiste et un physicien, ce qui est déjà assez original. Dans l'ère Trump, c'est quand même plutôt...
C'est
des intellectuels. Non. C'est des intellectuels qui sont au cœur du film.
C'était tourné avant. Hein.
Et que la science-fiction, c'est pas pour rien que les jeunes adorent la science-fiction, parce que les jeunes se posent des problèmes philosophiques. Et la science-fiction est un genre philosophique par définition. En particulier...
C'est pas les yeux.
Celui-ci, c'est
qu'est-ce
une réflexion sur
le
langage. Je trouve assez formidable de faire un film à grand spectacle, magnifiquement visuel, parce que c'est splendide, toutes les surfaces de verre, etc. C'est magnifique à regarder, mais en même temps, c'est une réflexion sur le langage. C'est-à-dire, on ne peut pas décoder une langue si on ne rencontre pas celui qui parle cette langue. C'est donc un film qui est pour le contact avec l'autre. C'est-à-dire, on ne doit pas ignorer l'autre, on doit essayer de le comprendre plutôt que de le rejeter. Alors évidemment, ça a déjà été fait par les rencontres du troisième type, par Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Bly. C'est pas nouveau que les aliens sont présentés sous un jour positif et non pas hostile. C'est-à-dire, l'étranger est toujours hostile. Non, absolument pas. Si on apprend sa langue, si on apprend comment il parle...
Tu y vois un grand film politique.
C'est un film, oui, c'est un film de morale, plus morale que politique, mais c'est une réflexion, effectivement. Je trouve incroyable de dépenser 50 millions de dollars pour faire un film sur le langage. Et d'autre part, ces heptapodes, ce sont des heptapodes avec leurs 7 tentacules, leur langage me fait penser aux peintures de Pollock ou de Zaouki. C'est absolument magnifique, ce sont des idéogrammes.
C'est assez Zaouki, oui.
C'est Zaouki, des idéogrammes qui se projettent sur les écrans. J'ai trouvé ce film tout à fait passionnant. Bon. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en couverture de Pierrot. Positif.
Bah, je n'ai pas la culture picturale de Michel, mais moi...
Bah, tu connais Zahouki, quand même.
Oui. Non, oui, mais enfin, bon, je ne sais pas. Oui, quand même. J'ai trouvé ça très beau. Moi qui ne suis pas très fan de films de science-fiction, et de, j'ai trouvé que pendant une heure et quart, il y avait une vraie beauté dans l'approche de ces gens qui marchent, qui essaient de comprendre. Non, non, mais c'est vrai que c'est presque russe pour le coup. C'est vrai que ça m'a, non, mais ça m'a fait penser un petit peu à Tarkovsky dans le film de science-fiction Solaris. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de découverte d'un monde différent, et je trouve ça esthétiquement absolument superbe. Le seul petit problème, c'est qu'au bout d'une heure et quart, la psychologie américaine reprend ses droits, et il y a donc la mère avec la fille, le côté sentimental.
J'ai dit que c'était du lourd, hein,
dans
l'histoire.
C'est le deuil,
hein.
Oui, c'est le deuil.
Oui, mais il en joue. Alors, autant je le trouve esthétiquement très fort, autant psychologiquement, je le trouve très épais. Et je le regrette parce que pendant une heure et quart, moi, j'ai marché à fond et j'ai trouvé ce film superbe. Après, c'est vraiment le passé, le futur, est-ce que nous renaîtrons un jour, est-ce que nous sommes nés, c'est une espèce de philosophie.
Oui, philosophie.
Oui, c'est une philosophie, enfin, mais c'est une philosophie de bazar, quand même.
Ton côté russe a dû être séduit par cet aspect.
Sauf que...
Non, il est en train de te dire le contraire, là. Hein.
Oui, mais sauf que la philosophie russe, ou dans les grands cinéastes russes, me paraissent un peu plus métaphysique que cette espèce de non-sens
québécois.
On parlait de Premier Contact, le film de Denis Villeneuve. Des réactions, oui, sur ce film.
Bonsoir. Je m'appelle François. Moi, j'ai trouvé que ce film était absolument formidable. Le film raconte pas mal de choses. Je pense qu'il y a une référence qu'il faut citer. Je pense que c'est le manga japonais Akira. C'est-à-dire que le personnage dans Akira donc ingère une force en fait dont il ne sait pas quoi faire en fait. Il devient fou. Alors que là, non en fait. Et donc le personnage qui échoue dans Akira réussit dans ce film. Le film raconte aussi que ce sont les hommes qui font la guerre. Et que, pour le coup, l'idée en fait qui est véhiculée dans le film, comme quoi ce seraient les extraterrestres, les aliens, qui viendraient apporter une espèce d'harmonie, c'est une bonne idée. Et une autre idée encore, c'est quand même un film qui raconte une histoire entre deux personnages aussi. Donc c'est la femme en fait qui a été choisie par les aliens, et c'est la femme qui agit. Et l'homme en fait, donc Jeremy Renner, qui a un rôle de composition, alors qu'il a presque rien à faire, il est là en fait juste pour la regarder faire, il la soutient. Enfin c'est voilà, j'ai trouvé ça très beau. Et je pense que j'ai vu peut-être le film que j'ai préféré de toute ma vie. Je pense. Hein, vraiment.
Eh ben au moins, merci pour ce témoignage qui est presque une confession. D'autres réactions sur ce film non. À Cannes, au dernier festival de Cannes, Olivier Assayas nous a, il faut le dire, un peu dérouté, en tout cas moi, avec son personnage Chopper. Alors là, c'est la catégorie thriller fantastique avec Kristen Stewart, qui était déjà présente dans le film précédent d'Assayas, Sils Maria, avec Anders Danielsen, Lee Lars Edinger, et dans le rôle de Maureen, la personnel shopper, l'acheteuse américaine qui s'occupe à Paris de la garde-robe d'une célébrité indéterminée. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, hein. C'est pas clair. Enfin, bref, c'est donc Kristen Stewart qui s'y colle. Maureen est aussi médium. Traumatisée par la mort de son frère jumeau, elle essaye de communiquer avec son esprit et elle reçoit sur son portable d'étranges messages anonymes. Et le surnaturel s'empare de cette histoire de fringues et de bijoux. Avec même des moments que j'ai trouvé assez effrayants, enfin assez angoissants, qui en font un film pour moi assez indéfinissable, à mi-chemin entre le glamour et le spiritisme, en gros entre Louboutin et Victor Hugo, si vous préférez. Là, je pense à Benjamin Biolay. Vous me dites ce que vous en pensez, Pierrot ?
Entre glamour et spiritisme, c'est ça le problème. C'est que moi, j'aime bien le côté glamour, c'est-à-dire
mais
que...
Mais t'aimes pas le spiritisme.
Non. Alors là, le spiritisme, quand elle...
Pourtant, c'est assez russe, ça, cette parler avec les esprits.
Oui, mais alors ça, c'est pas le c'est pas l'aspect de la Russie que j'aime le plus. En tout cas, pas comme ça. Non, je veux dire que la maison hantée où elle guette où l'héroïne guette des apparitions, je trouve ça, mais alors, totalement grotesque. Voilà. Mais en revanche, où Olivier Assayas, qui je crois a quand même raté le film, mais où il est assez fort, parce que c'est un bon metteur en scène, c'est lorsqu'il filme par exemple dans un train ou à Londres l'héroïne.
Dans le train, c'est un peu long l'histoire du portable. Là,
oui, mais justement. Moi, je trouve ça assez bien fait et assez prenant cette histoire de. Sauf que je crois, si j'ai bien compris, que le film s'effondre un peu parce que.
pour des appels anonymes comme ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. Autrement dit, je crois que tout le film s'effondre parce que on m'a expliqué que ça ne marchait pas. Si tu reçois des appels anonymes, tu peux pas y répondre.
C'est pas non plus un film, en quelque sorte. C'est pas un film qui est totalement rationnel.
Non, je suis bien d'accord. Mais si la base du film est que c'est totalement impossible, le film devient encore plus invraisemblable et plus fantastique que ça. Il y a Kristen Stewart qui est absolument magnifique, même si elle grimace un petit peu beaucoup de temps à autre, comme quelquefois les actrices américaines en faisant « Oh my God !» Mais elle est tellement belle, et je pense que Olivia Sayas...
Mais elle était plus intéressante dans le Six Maria.
Dans Six Maria, où elle était absolument superbe. Superbe.
Comme assistante.
Elle faisait le film, en quelque sorte. Là, je pense qu'Olivia Sayas a voulu la retrouver parce qu'il est fasciné par elle. C'est un film à sa gloire, à sa beauté. Et pourquoi pas? Je crois qu'il y a un peu trop d'éléments qui se contredisent pour que ça soit une réussite.
Jean-Marc, toi, tu es...
Moi, j'aime beaucoup, oui.
Tu es accro, toi.
C'est
à cause de Kristen Stewart, en fait, surtout.
Moi, j'aime beaucoup Olivia Sayas. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs cinéastes français, tout simplement.
Au monde, même, non?
Peut-être dans les 20, oui, peut-être.
Du siècle.
Enfin, je pense que vraiment, Sayas est un grand cinéaste. Et même si celui-là n'est pas un de ses films les plus accomplis, si c'est moins un grand film que Six Maria, qui pour moi était pas loin d'être un chef-d'œuvre, je trouve que c'est quand même vraiment passionnant et que c'est un pur film de mise en scène. C'est comme s'il regardait à la loupe une branche de Six Maria, qui est un film très touffu, et qu'il extrayait la branche de Kristen Stewart pour en faire le cœur du film. Et tout ce qui est sur elle, c'est vraiment un conducteur idéal de cinéma, Kristen Stewart. Et moi, les scènes où je pourrais vraiment la regarder des heures, recevoir des textos, l'air paniqué, y répondre, ça fait beaucoup penser à une scène d'un film d'une vingtaine d'années de Jacques Rivette qui s'appelait Secret Défense, où il y avait une scène de train très très dilatée où Sandrine Bonnaire aussi déambulait, et sur les fantômes, sur la manière comme ça de dilater des séquences, il y a quelque chose de très rivettien dans le film qui me touche beaucoup et qui est vraiment une lignée de cinéma qui est vraiment ce que j'aime le plus peut-être dans le cinéma français. Et je trouve que Sayas c'est vraiment très fort pour filmer tout ce qui circule dans le monde contemporain, que ce soit les bien marchands, les corps, tout ce qui est invisible et que vraiment sa caméra réussit à incarner, c'est-à-dire que les forces de l'esprit tout comme les forces de l'économie, tout comme les forces du désir, tout ça, ça crée une espèce de succession de remous qui font vraiment un très très beau, bel objet de cinéma.
Même si on n'est pas d'accord, t'es assez convaincant, Michel ?
Je jette une pierre dans le jardin de ceux qui pensent que je suis un adepte du cinéma américain, parce que d'habitude, les films d'Assayas au titre étranger, Boarding Gate, Demon Lover, je ne les aime pas du tout. Je trouve qu'ils sont à la fois prétentieux, embrouillés, etc. Et là... C'est un film qui me... Personal Shopper. C'est un film qui me déçoit d'une certaine façon, dans la mesure où c'est le contraire de ces films que j'ai cités. C'est-à-dire que c'est réduit vraiment à une trame extrêmement mince. C'est-à-dire que l'histoire, et on peut dire le scénario, peut être écrit sur un ticket de métro, et qu'il y a des séquences, un peu de remplissage, en particulier toutes ces scènes où elle tapote sur son portable, etc., que je trouve très, très longues. En même temps, Sayas est vraiment un vrai cinéaste, c'est-à-dire qu'on est tout le temps fasciné, même quand c'est un peu ennuyeux, un peu lâche, avec beaucoup de trous, par cette extraordinaire maîtrise, fluidité de sa façon de filmer, et de filmer en particulier Kirsten Stewart, qui l'inspire beaucoup, visiblement. Je ne sais pas si vraiment le commentaire sur la société, sur la mode, puisqu'elle achète des vêtements...
Oui, ça voilà. Je l'ai expliqué, ça.
Je rappelle tout simplement. Je ne pense pas que ce soit vraiment un commentaire vraiment très, très profond et très intéressant. Donc voilà, je suis un peu partagé. J'ai trouvé scandaleux l'accueil du film à Cannes, où il y avait 8 points noirs, 8 points noirs de critiques
finalement,
français.
Finalement, il a quand même eu le prix de la mise en scène. Donc
il a eu le jury, mais enfin, avec ce jury-là, on ne peut pas se féliciter parce qu'ils ont tellement raté de choses que...
Non, pas tant.
Non, en tout cas, je trouve que le film vaut la peine d'être vu. Et en plus, moi j'aime beaucoup, contrairement à certains, les films de fantômes.
Allez, on a plein de films à voir. Pas
et on parlera d'un autre film de fantômes,
oui,
de Benoît Jacquot.
Daniel ?
Je ne l'avais pas vraiment bien reçu à Cannes et je l'ai revu et je l'ai beaucoup mieux reçu.
Est-ce que vous êtes gentil ?
Non, ce n'est pas une question de gentillesse. C'est d'abord très beau de voir un metteur en scène qui élève effectivement un monument filmique à une actrice parce qu'il l'aime et il nous l'a fait aimer. La séquence inaugurale que vous semblez négliger, je trouve que c'est de la vraie mise en scène, cette maison sombre où elle cherche le fantôme de son frère, on est dedans.
c'est ridicule, là. Pardon,
Daniel. Non, non, bah, attends, excuse-moi, oui. Tu permets. Bon, merci. Ce que je trouve extraordinaire, effectivement, dans Sils Maria, Kristen Stewart disparaissait à la fin. C'était aussi une assistante, un peu esclave, et elle disparaissait dans un paysage de montagne, et là, elle réapparaît. Elle est mal peignée, elle est apparemment à peine maquillée, elle est un peu androgyne, elle essaye les fringues qu'elle achète ou qu'elle emprunte pour son irascible patronne. Elle montre des petits seins adolescents. Elle est absolument, apparemment, pas du tout magnifique. Et elle devient une sorte de symbole absolu de la féminité et de la beauté. Donc ça, déjà, je trouve que c'est magnifique. Bon. Et que, voilà, c'est une petite chasseuse de fantômes qui prend son scooter avec des Louboutins au bras et des Cartiers dans le sac. Et je trouve qu'effectivement, il y a un charme et une ode à une actrice qui est magnifique.
Personal Shopper d'Olivier Assayas, des réactions sur ce film? Non. Autre film de fantômes, je vais vous demander d'aller un peu plus vite, décidément, donc je vous le disais, c'est la semaine des fantômes. Là, c'est À jamais de Benoît Jacquot. On est très loin des Adieux à la reine de Chantal Thomas, évidemment, et du Journal d'une femme de chambre de Mirbeau. Là, il adapte un roman de Don DeLillo qui est Body Art, où un cinéaste, c'est évidemment Mathieu Amalric, quitte sa compagne et son actrice fétiche, c'est Jeanne Balibar, pour s'enfuir au Portugal avec la jeune artiste performeuse qui est jouée par Julia Roy et qu'il vient de rencontrer, bref, rencontre, car il va disparaître, sans qu'on sache, mais Pierrot va nous le dire, si c'est un accident ou un suicide. Enfin, disparaître, pas tant que ça, parce qu'il y a encore, beaucoup d'esprit. Un film que j'ai trouvé totalement, pour le coup, fantomatique, mais que vous allez sans doute beaucoup aimer, Daniel.
Oui.
Oui.
Voilà. C'est un film terriblement modeste dans sa facture, voilà. Je trouve assez émouvant que ce soit cette jeune Julia Roy qui ait vraiment suscité ce film, que Benoît Jacquot s'y soit prêté. C'est elle qui a coécrit en tous les cas le scénario et qui joue le rôle principal. Et c'est un film de fantômes. Bon, Mathieu Amalric n'est pas gâté dans le film et il disparaît en effet assez vite. Mais
il disparaît physiquement.
Il disparaît assez vite physiquement. Et c'est, je trouve, un film d'une grande subtilité sur le deuil, sur la recherche de quelque chose qui continue. C'est des questions qu'on se pose quand même assez communément chacun. Et je trouve que cette simplicité et cette modestie sied beaucoup à ce sujet.
Michel ?
Oui, mais moi aussi, je défends ce film. Je trouve que moi, j'aime chez Jacquot ce romantisme. C'est un cinéaste, finalement, du 19e siècle. Il aime le côté Nerval, il aime toutes ces histoires de symbolistes aussi fin de siècle. Et je trouve que dans ce film, par exemple, il y a des choses très belles. Là, il découvre cette femme dans une combinaison noire de danseuse, de chorégraphe. Et à la fin, elle porte la cagoule du motard qui était l'homme de sa vie. Donc je trouve qu'il y a une série de... le côté ténébreux du film. Et là, il réussit très bien, justement, cette maison. Il y a une façon de créer un climat dans cette maison au bord de la mer, hantée, que je trouve assez forte. Alors je pense que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps, ce qui n'est pas tellement fréquent dans le cinéma français.
Parfois, il ne trouve pas. Jean-Marc.
Oui, moi, je trouve ça bien aussi. Ouais. Je suis désolé. Non, c'est vraiment un film très intéressant et un peu théorique, mais c'est ce qui est très stimulant. Enfin, et moi, j'aime beaucoup la manière dont il inverse les rapports entre les vivants et les fantômes. On a l'impression que c'est un fantôme qui est hanté par une vivante. C'est-à-dire qu'elle va s'approprier ses gestes, sa parole. Elle va hanter le fantôme pour en tirer un bénéfice personnel qu'on découvrira dans les derniers plans du film. C'est presque le contraire du film d'Assayas, où le personnage Kristen Stewart passe pour se réfugier contre la brutalité du monde marchand, croit aux esprits. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment quelqu'un qui va phagocyter le monde des esprits pour en tirer un bénéfice dans le monde réel. Il y a quelque chose de presque une forme de comique cérébral froid que je trouve assez jubilatoire dans le film.
Tu permets que je note, parce que là j'ai oublié comique cérébral
froid.
Non, parce que c'est
froid.
Pierre.
Bah désolé Jérôme, j'aime bien aussi vraiment. Bah oui, non, mais j'aime bien parce que alors il y a le Benoît Jacquot qui quelquefois est un petit peu que j'aime moins quand il fait Trois Cœurs par exemple. Et là j'aime bien quand il...
Trois Cœurs.
Mais quand il fait Au fond des bois, par exemple, c'est beaucoup plus inventif. Et là, en effet, moi, ce qui me plaît, c'est une situation toute bête, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le souvenir de quelqu'un qui a disparu dans une maison. Et ça m'a rappelé, pour faire quoi, un film peu connu de Joseph Losey, mais que j'aime beaucoup, qui est Cérémonie secrète, où il y avait comme ça aussi presque des fantômes qui vivaient dans un lieu clos, c'est-à-dire c'était Elizabeth Taylor et Mia Farrow, et qui étaient là. Et je trouve que ce qu'il fait de la maison et des rapports de cette femme qui essaie de faire vivre, de revivre celui qui est mort et qui en même temps ne veut pas qu'il revive et essaie de s'en sortir pour vivre, c'est un exercice de style que je trouve extrêmement réussi.
À jamais donc de notre nouveau Losey, c'est donc Benoît Jacquot. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ?
Oui, bonsoir Le Mas, bonsoir Jérôme. Excusez-moi, je me suis ennuyé. C'était pas possible.
Je peux vous embrasser ou non ?
C'est pas possible. L'actrice, en plus, n'a aucune épaisseur. On ne sait pas si c'est le réalisme ou l'onirisme. On est entre les deux. Non, c'est chiant. On aurait voulu une actrice du niveau de Maria Cassares, par exemple. Mais là, c'est nul. Je suis désolé.
Je vous remercie pour votre intervention. Et je vous promets que ça n'était pas prémédité.
Oui, on dit ça.
Encore un très bon film ce soir, c'est Salt on Fire, une sorte de thriller de l'allemand Werner Herzog, le cinéaste chenu d'Aguirre, La colère de Dieu, avec Michael Shannon, Véronica Ferres, Gael Garcia Bernal. Ça dure 1h33, qui commence par l'enlèvement à l'aéroport de trois scientifiques venus enquêter sur une compagnie qui serait responsable d'un désastre écologique en Bolivie, le Diablo Blanco. C'est tourné dans un beau désert, d'ailleurs, que je connaissais pas, qui est le désert de Sel d'Uyuni. Il y a un îlot pierreux où Véronica Ferres est abandonnée avec deux enfants aveugles. Je vois absolument pas où est le suspense. Les dialogues sont risibles. J'ai l'impression de lire des dialogues d'une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt.
On est presque dur avec...
C'est d'un ennui même pas raffiné. Allez, je pense que vous avez aimé ça, non, Pierre ?
Ah non, mais tu as raison, c'est-à-dire que c'est des... Non mais attends...
Enfin un peu de lucidité.
Bon. Non mais attends, à un moment donné, il y a un dialogue où l'héroïne dit « Je n'approuve pas la corruption ». Déjà, dire « Je n'approuve pas la corruption ».
On est en Bolivie, hein, je te rappelle.
Oui, d'accord, mais enfin quand même, c'est en anglais. Et puis la réplique du méchant, c'est « Ne tentez pas de venir au secours d'un monde épuisé ».
Oh mais là,
ça, genre, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ça,
oh, oui.
Alors, je vous propose,
c'est ce qu'il y a de mieux,
je vous propose le meilleur endroit pour mourir et l'endroit où l'on est le plus mortel.
Ça c'est pas mal.
Ah oui, tu trouves
ça, pourrait être dans le jacuzzi.
Et alors la nana qui est quand même enlevée par un méchant de James Bond, mais qui après devient...
Ah oui, qui en plus il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant à côté.
Oui,
de lui, on comprend pas très bien ce qu'il fait là.
Mais quand il est dégoûté par la vie, il se met en fauteuil roulant, puis quand il va bien, il marche. Voilà. Quoi. Enfin voilà, tout ça.
Alors là, pour le coup, c'est incompréhensible. Hein.
Ah, c'est totalement.
Qu'est-ce qu'ils font là, les enfants aveugles, sur cet îlot pierreux?
Alors, c'est surtout l'expérience parce qu'il laisse donc l'héroïne avec ses deux enfants, mais on ne comprend pas pourquoi. À la fin, il y a même une idylle qui s'amorce entre les personnages.
Oui, ça, on peut le raconter parce que c'est tellement mauvais que...
Voilà. Non, mais c'est épouvantable.
Ah bon, d'accord, ça va. Bon, je suis rassuré. Daniel ?
Non, c'est assez consternant, oui. Non, mais effectivement, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que Werner Herzog sait encore filmer les paysages. C'est-à-dire que le désert de...
C'est le seul paysage.
Oui, mais National Geographic aussi.
Voilà, le dernier plan est magnifique. Malheureusement, il arrive à la fin, il faut se taper le film avant. Alors, c'est extraordinairement consternant, parce que les dialogues, enfin, c'est tendez vos rouges tabliers, plus des vérités premières, tout le temps. Et ce kidnapping, on comprend pas. Elle reste quand même avec ses deux enfants aveugles. Évidemment, ça n'arrange pas les choses. Avec quelques bonbonnes d'eau, mais pas beaucoup. Elle reste 8 jours, toujours impec, un peu moins maquillée, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas la fable écolo, c'est quoi ? Oui, oh, c'est pas bien, il y a un vilain consortium qui a fait une catastrophe, et voilà maintenant où on en est là. Bon, oui. Ok, d'accord. Et puis, eh ben, c'est pas bien. Oui, mais quand même, le patron du consortium a des remords. Ah, bon, bah alors tout va bien. Non, mais c'est tellement primitif comme... Il n'y a rien là-dedans, bon. Et on ne reconnaît pas Werner Herzog, qui est quand même, qui s'est montré les dernières années un formidable. Non, non, il s'est montré un très bon.
Les derniers étaient très, oui.
Non, mais il s'est montré un très bon documentariste.
Donc, ah, documentariste, moins, oui. 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 Bah, mais les derniers films de fiction étaient.
Oui, mais
pas
d'accord,
bons.
Mais donc il aurait pu faire un documentaire formidable sur ce désert de sel, on aurait été très content. Mais vraiment, l'intrigue qu'il y colle est inavrante.
Une dernière formule. Oui, très vite. Moi, la seule chose, en fait, le film est vraiment une expérience très pénible, on s'ennuie vraiment énormément. Mais la seule chose qui m'intriguait, c'était de dire qu'est-ce qu'il cherche, en fait, pourquoi il fait ce film. Visiblement, il le fait par-dessus la jambe, sur la direction d'acteur, tout est totalement dérégulé. On a l'impression qu'il ne tient rien, qu'il le fait presque exprès, que c'est comme une sorte de navet volontaire.
T'es sûr?
Alors, c'est réussi.
Je suis pas certain. Moi, je pense qu'il y a cru, moi.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jeu.
Ce qui m'étonne plus, c'est que Gaël Garcia Bernal y est cru.
Il est vraiment très mauvais. C'est une opération accablante pour lui.
Arriver à avoir Michael Shannon et de le rendre absolument pas inquiétant, alors que c'est un acteur prodigieux pour créer l'inquiétude, il est absolument incolore dans ce film.
Ah bah, mais dès le début, l'enlèvement, de toutes les manières, on n'est même pas inquiet.
Une dernière formule, la vérité et la fille du temps. C'est génial, non? La vérité et la fille du temps.
Oui, mais c'est pas mal, ça, la vérité et la fille du temps.
Ah oui, tu trouves.
Je trouve que le titre est trompeur parce qu'il n'y a ni sel ni feu dans ce film. C'est un film absolument exsangue. Et Emmanuel Carrère, il y a 40 ans, son premier livre était consacré à Werner Herzog. Et déjà, il disait, c'est le déclin de Werner Herzog. Déjà, dès Fitzcarraldo, il disait, cet homme est sur la mauvaise pente. Et c'est vrai que ça a été un immense cinéaste pendant 7 ou 8 ans. Ensuite, il a fait des documentaires passionnants, mais la fiction, alors après Wim Wenders, il y a 3 semaines, le cinéma allemand des années 70, c'est même quand on voit ces deux films, mais Herzog n'a pas fait, et je comprends pas, la fascination pour mes confrères, pour ce cinéaste, dont la plupart des films de fiction sont catastrophiques depuis 30 ans. Il n'a rien fait d'important. Mais rien.
Radio Tenante, c'était quand même mieux que ça.
Enfin, oui, bon, mais rien, oui, mais c'est rien du tout.
D'accord.
C'est rien du tout. Il y a une sorte d'aura autour de cet homme qui, évidemment, mange sa chaussure, marche à pied depuis Munich pour honorer l'auteur Eisner. Il y a toute une mythologie autour de Herzog.
Mais quand il mange ses chaussures.
Oui, il mange sa chaussure. Il avait mangé sa chaussure. En direct, il y a un documentaire sur lui où il avait parié qu'il mangerait sa chaussure. Il a perdu, il a mangé une chaussure. Mais c'est une mythologie autour de lui. Mais quand on regarde les films, je parle des fictions. C'est vraiment atterrant.
Sad on Fire, donc, de Werner Herzog. Non, je crois qu'il n'y a pas de réaction sur ce film, je vous comprends. Après la journée de la jupe et sous les jupes des filles, le retour d'Isabella Gianni, mais sans jupe, mais avec un grand manteau rouge. C'est donc dans Carole Mathieu, un film qui est sorti en salle le 7 décembre, après avoir été, il faut le préciser, diffusé sur Arte. Et signé Louis-Julien Petit, elle est ici médecin du travail chez Mélidem, qui est une plateforme de téléphonie aux méthodes, il faut dire, très cassantes, très meurtrières même, et on pense évidemment au drame provoqué dans les années 2008-2009 chez France Télécom. Bref, le film, plutôt un téléfilm, est tiré de l'excellent thriller social qu'avait écrit Marine Le Dain, « Les visages écrasés », qui viennent d'ailleurs, je vous le dis, d'être réédités chez Point. Bref, Adjani, c'est donc le docteur Carole Mathieu. Elle est le témoin de la manière dont, au nom de l'ultralibéralisme, on tyrannise, on humilie, on punit les salariés qui finissent par tomber malades ou être acculés au suicide. Elle va faire dans la boîte, évidemment, un geste que Pierre va raconter, mais qu'il vaut mieux ne pas raconter.
Je ne raconterai pas.
C'est le seul élément un peu romanesque du film. Mais voilà, c'est la douleur de... La compassion et la douleur. D'ailleurs, je lirai une lettre après que j'ai reçue de médecins d'ailleurs du travail qui m'ont écrit cette semaine. C'est une douleur assez grandiloquente, hein, parfois même un peu excessive. On a l'impression que c'est la reine Margot chez Mélidem. Et puis il y a aussi, ça faut quand même le préciser, l'excellente Corinne Massiero qui joue sur elle, contraire d'Adjani, sans en rajouter, la DRH de l'entreprise. Pierre.
Bah, on est navré parce que c'est. Elle a fait. D'abord, je vois pas pourquoi ce film sort en salle. C'est un téléfilm d'Arte qui a été diffusé sur Arte.
C'est arrivé plusieurs fois.
Il y a trois semaines, oui.
Oui, c'est arrivé plusieurs fois.
Mais très peu. Là vraiment, c'est...
Non, mais que des films d'abord diffusés sur Arte.
Oui, mais là, je pense que personne n'est très content. C'est un caprice de star. Isabelle Adjani voulait visiblement que ce film sorte en salle parce que ça lui assurait peut-être une visibilité un tout petit peu plus grande que Arte. Mais voilà. Mais je trouve qu'elle n'est pas bonne dans un film qui n'est pas bon et qui ne peut pas être bon parce que le metteur en scène à qui elle a fait confiance, donc Louis-Julien Petit...
Qui avait fait Discount.
Fait Discount dans un genre un petit peu différent. Là, se prend extrêmement au sérieux. C'est-à-dire que c'est une... Je trouve que c'est presque... pas bien, si j'ose dire, de faire un si mauvais film sur une situation aussi scandaleuse et dramatique que ça. C'est-à-dire que quand on a un scénario comme ça avec des personnes, enfin des personnages.
Encore une fois, le livre était formidable. Hein.
Voilà, mais là, c'est presque. Pardon de dire, honteux de faire un film aussi noir, mais dans le mauvais sens du terme, qui repousse les gens au lieu de les attirer vers les cas, c'est d'une prétention énorme, c'est d'un ennui total, et la pauvre Isabelle Adjani, qui depuis quand même pas mal d'années ne sait pas choisir ses rôles, à moins qu'on lui propose que des...
Et malheureusement, pas simplement au cinéma.
Et pas seulement au cinéma, au théâtre, c'est quand même la plus grande actrice qu'on ait eue pendant un temps et qui a gâché sa carrière de façon absolument étonnante, terrible. Bah, elle se promène là avec, comme tu dis, Jérôme,
c'est
un manteau qui semble la défaite de la reine Margot. Quoi. Enfin, c'est la défroque de la reine Margot.
Michel,
non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ça rend du coup le film d'Emmanuel Berco dans le genre dossier de l'écran, dans le genre film social, bien supérieur. On a été trop sévère pour Emmanuel Berco quand on voit ce film-là, qui effectivement est un peu le degré zéro. De l'écriture cinématographique, les acteurs jouent, à part, évidemment...
À part Massiro.
À Massiro, voilà. Mais le reste, c'est... Il n'y a aucun style, il n'y a aucune énergie, il y a trop d'énergie qui se dilapide. Moi, je n'ai pas tellement envie d'en parler, parce que je trouve ça un peu consternant.
Mais oui, Daniel ?
Trop, c'est trop. C'est très exagéré, et ça annule même le propos qui est tragique.
Vous verrez ce que disent certains médecins, je trouve, à la limite du dangereux. Enfin,
oui, voilà. Cette façon et puis effectivement, ce qu'il advient de ce personnage est terrible. Alors, moi, je suis désolée, mais je sauve Isabelle Adjani. Peut-être que je suis une vieille sentimentale et que ça n'a rien à voir avec le cinéma. Mais
non, ça n'a rien à voir avec le cinéma.
Non, mais
ça n'a rien à voir avec le cinéma. Pardon.
Effectivement, je n'ai pas vu Le médecin du travail dans son grand manteau rouge. J'ai vu Isabelle Adjani à la recherche d'elle-même, à la recherche de... Mais oui, excuse-moi, c'est ce que j'ai vu. Et un petit peu, comme Romy Schneider à la fin de sa carrière, c'est-à-dire ces actrices qu'on a extraordinairement aimées et qui, à la fin, ne peuvent plus, sont submergées, submergent leur personnage, et leur personnage disparaît derrière ce qu'elles ont été et ce que peut-être elles ne sont plus. Et j'ai regardé Isabelle Adjani comme ça, et le film disparaissait derrière.
Jean-Marc ?
Bah oui, c'est un peu le troisième film de fantôme français de la semaine, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un film de réalisme social très plat et pas intéressant.
C'est un fantôme encombrant, là.
Et puis, il y a ce manteau rouge qui est vraiment comme une défroque fantomatique et une Isabelle Adjani totalement spectrale. Et le film essaie de styliser tout ça comme un cauchemar. Vraiment, l'intrigue est totalement invraisemblable. C'est-à-dire qu'aucune médecin du travail ne pourrait accomplir le geste qu'elle fait. Mais du coup, on se demande si tout ça n'est pas rêvé ni fantasmé. Après, comme il y a vraiment un défaut de mise en scène et que je pense que le film n'a vraiment aucune grâce pour filmer ce côté nightmare, ce côté spectral, c'est quand même vraiment un objet assez faible en cinéma. Mais la bizarrerie que trimballe aujourd'hui Isabelle Adjani, à mon avis, c'est quand même la seule chose un peu intrigante dans le film.
Bon, c'est là donc, c'est Carole Mathieu. Et donc, les docteurs Catherine Didier et Anne-Lise Kilchberger m'ont écrit cette semaine, elles sont médecins du travail, toutes les deux, et elles nous disent que Carole Mathieu est une catastrophe. Pour notre image, il montre un médecin qui a une posture inadéquate, dans la sympathie sombrant avec les salariés, alors que notre professionnalisme requiert de l'empathie et de la bienveillance permettant l'accompagnement, le soutien et leur protection, y compris vis-à-vis d'eux-mêmes. D'ailleurs, dans les premières minutes, elle trahit le secret médical. Si on voulait tuer la médecine du travail, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est affligeant, insupportable, grotesque. Nous sommes inquiets de l'amalgame, nous disent ces médecins du travail, entre Carole Mathieu et tous les médecins du travail.
Non, mais je pense que le film n'exemplarise pas du tout et le film la montre un peu comme déréglée quand même.
Oui, enfin la souffrance au travail, c'est malheureusement aussi celle un peu d'Isabelle Adjani aujourd'hui sur les plateaux de cinéma. Pas de réaction sur ce film, non. Allez, Baccalauréat auréolé à Cannes du prix de la mise en scène, c'est le nouveau film du Roumain Christian Mungiu, déjà Palme d'Or en 2017. 2007 avec, je vous le rappelle, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et c'est avec Adriane Titieni, Maria Dragus, Malina Manovici, un film sur la corruption ordinaire. Alors là, vraiment ordinaire, pot de vin, dessous de table, passe-droit, petits arrangements. Et on suit Elisa, qui est jouée par Maria Dragus, qui était déjà dans Le Ruban Blanc, je ne sais pas si vous en souvenez, une très bonne élève qui prépare son bac en Transylvanie et aspire à poursuivre ses études dans une fac anglaise. Mais voilà, à la veille de l'examen, elle est victime d'une agression qui risque de tout remettre en question. Et son père, qui est chirurgien, le père d'Elisa, qui est chirurgien. D'ailleurs, il n'y a pas de film roumain sans
médecin.
Sans médecin, vous avez remarqué? Ouais, oui, c'est presque la
le
figure
pays a besoin d'être soigné,
obligée. Donc le chirurgien qui est revenu au pays après la chute de Ceausescu, et qui est plutôt d'ailleurs à cheval sur les principes, sauf pour sa vie amoureuse, décide alors de s'adonner à ce qui gangrène la société roumaine. Ça ne se passe qu'en Roumanie, hein, jamais en France, qui est la corruption. Ce sera notamment une opération contre un diplôme. Évidemment, c'est le début d'un enchaînement de catastrophes, avec un épilogue que Pierre va nous raconter. Michel ?
Pour moi, c'est le grand film de cette quinzaine, Baccalauréat. C'est vraiment un film sans faille, d'une perfection absolue. On dirait l'impression d'un théorème, mais un théorème charnel, pas un théorème abstrait, qui se déroule de façon, avec une logique terrible, du début jusqu'à la fin. Au début du film, on a une brique ou une pierre qui est lancée dans une vitre. C'est un peu comme une pierre que l'on jetterait dans l'eau avec toutes les ondes concentriques. Mmh. Et tout le film va être l'ébranlement de ce début menaçant.
Qui est un long film, il faut le dire. Hein. C'est assez long. Hein.
Deux heures. Et on ne sent pas passer ces deux heures tellement c'est une tension permanente. Et c'est aussi un grand film parce qu'il réussit ce qui manque parfois, très souvent au cinéma, de lier l'intime et le collectif. C'est-à-dire c'est à la fois le portrait d'un homme qui effectivement a appris à sa fille d'avoir la morale, etc., qui est revenu d'exil, il était à l'époque de Ceausescu.
Il est revenu en 91 ans.
Après la mort du tyran, avec des espoirs de construire une autre société, et cette société, finalement, est bâtie sur la corruption, sur le mensonge, sur les fausses valeurs. Donc il sent le sol se dérober sous ses pieds, et en même temps, c'est donc le portrait d'un homme et le portrait, en même temps, d'un pays, d'une façon absolument incroyable de précision dans tous les chevaux des compromissions qui se font. Alors, la compromission à l'époque du communisme, c'était la seule façon de survivre. Il fallait bien faire des compromis, sinon on était condamné. Quand on a trouvé enfin une sorte de démocratie et de liberté, la compromission devient terrible. Et je trouve que le film, les acteurs sont extraordinaires.
Extraordinaires, oui.
D'habitude, on joue... D'habitude, Mounjou prend des femmes, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, et au-delà des collines, c'était une bonne sœur et puis son amie. Là, il prend un homme, mais un homme entouré de femmes. Et toutes ces femmes sont absolument incroyables. La maîtresse, l'épouse, la fille, la mère cardiaque, etc. Je trouve que c'est un film qui ne vous lâche pas un instant.
Pierrot.
C'est magnifique. C'est un film sur l'inquiétude morale, comme on disait il y a quelques années, qui était un courant qui était né en Pologne, surtout avec Kieślowski et Krzysztof Zanussi. Mmh. Et qui était ça, voilà, est-ce qu'on peut vivre dans la société communiste de l'époque sans se compromettre? Alors nous, c'est vrai que nous, on n'est pas très fan de l'inquiétude morale de ce point de vue-là, mais ça n'a jamais cessé de tarauder les cinéastes de l'Est, en quelque sorte, et là, c'est absolument magnifique, parce que ce qu'on voit, évidemment, c'est que la femme légitime du héros, par exemple, elle est restée très pure, très dure dans ses principes, on ne se compromet pas. Lui aussi, mais lui ne peut pas ne pas être tenté par l'ambiance qui consiste à dire tout le monde se rend des services. Et on ne peut pas survivre dans la Roumanie, même actuelle, sans se rendre des services. Il se méprise en faisant ça. Mais en même temps, il est obligé donc de demander des services, donc d'en rendre. Et à ce moment-là, c'est le début du piège. Et ça devient un film noir, un thriller, un film à la fois politique et un polar d'une intensité qui ne se dément pas. L'acteur aurait mérité le prix d'interprétation masculine à Cannes parce qu'il est absolument sensationnel.
Qu'est-ce qu'il avait eu d'ailleurs à Cannes? J'ai oublié.
Le prix de
l'acteur iranien.
Non, mais l'acteur du Faraday.
Il y a des rapports entre les deux films.
Oui, mais alors là, vraiment, je trouve que celui-là est tellement plus fort sur la
ne revenons pas sur le film d'Asghar Farhadi, s'il vous plaît.
On revient pas dessus. Mais celui-là me paraît, au point de vue mise en scène et au point de vue force dans ce qu'il dit, absolument sans égal.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment une très grande réussite. C'est peut-être même mieux que son premier film. Pour moi, le deuxième, Au-delà des collines, était vraiment assez raté. Là, c'est un film extrêmement percutant.
C'est raté.
Moi, je trouvais. Mais celui-là, m'a totalement convaincu.
Au-delà des collines, magnifique.
Bah, je trouve pas. Mais bon, c'est pas ce film-là dont on parle ce soir, donc c'est pas grave. Mais ce qui est impressionnant dans le film, c'est qu'on sent vraiment, en amont du film, il y a vraiment un travail de brut sur le scénario, à tel point que ça pourrait paraître un peu trop fabriqué, tous ces twists, toute cette batterie d'événements qui viennent compliquer les situations, comme dans le cinéma d'Ashgar Faradi, pardon d'y revenir, mais sauf que c'est totalement électrifié dans le présent de la mise en scène, et qu'il y a quelque chose sur la direction des acteurs, sur le sentiment que ça se joue là dans le plan et pas tellement en amont dans le scénario, même si c'est très construit, qui est vraiment du cinéma, et donc c'est totalement captivant, totalement prenant, on est totalement impliqué émotionnellement tout le temps dans le parcours du personnage.
Daniel ?
Ah oui, on ne le quitte pas, c'est... Et en plus, tout est traité avec une implacable douceur, c'est-à-dire qu'il y a très peu de violence. La violence est complètement intérieure et la question est celle-là, partir ou rester. Ils étaient partis, ils sont revenus et là, est-ce qu'il ne faut pas repartir? Ils sont revenus en Roumanie parce qu'ils pensaient que ça allait changer, rien n'est changé. Et tout le monde a... Alors, on ne dit pas la compromission, on dit pas... Non, on dit, tu sais, tu peux... Il est serviable. Voilà, tout le monde est serviable parce que tout le monde a besoin de la compromission de l'autre. Et effectivement, il n'y a pas véritablement de méchants. Il y a des gens qui ont besoin d'un service. Il y en a un qui a besoin d'un foie pour une transplantation. Alors effectivement, ça c'est une urgence. Alors effectivement, on s'arrange. Et ce père qui veut que sa fille ait la chance de partir, parce qu'il lui est revenu et il n'est pas parti. C'est inéluctable, c'est implacable et c'est d'une beauté et d'une force et d'une sensibilité permanente.
Baccalauréat de Christiane Mounjou, on termine vite avec Go Home, le premier long métrage de fiction de la Libanaise Jiane Chouaib avec Golshift Farani, Maximilien Séverine, François Nour et Mireille Malouf, et bien qu'elle soit d'ailleurs tout à fait iranienne, Golshifteh Farani, et Nada, qui est une Libanaise qui revient dans son pays après la guerre civile qui l'a ravagée. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 17 000 disparus et où elle a perdu son grand-père. Et elle décide, Nada, d'habiter la maison de famille dont elle a hérité, enfin la maison, plutôt une ruine, avec des murs graffités où elle s'éclaire à la bougie. Quant au jardin, bah, c'est une sorte de décharge où sont enterrés, comment dire, de gros secrets, je préfère le dire comme ça. Et elle est traitée comme une étrangère dans ce village et rejointe par son frère qui vient lui aussi de France. Alors le scénario est un peu linéaire, les flashbacks ne sont pas très très légers. Mais moi je suis tellement amoureux de Golshifteh Farani que je crois que je la suivrai partout, dans n'importe quelle ruine. Voilà, mais cela dit, on ne peut pas dire que ce soit un film d'une très grande subtilité. En quelques mots, vous m'en parlez, Daniel ?
Oui, alors bon, et c'est vrai que la métaphore de la maison en ruine est un petit peu facile, mais c'est quand même le Liban tel qu'il est. Il se trouve que moi je reviens de Beyrouth, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire la vie qui reprend, la vie qui est là est quand même la ruine. Et donc, moi, j'aime beaucoup le double sens de Go Home. C'est-à-dire, Go Home.
Non, c'est ce qui est, il faut dire, expliquer, c'est, voilà, c'est ce qu'on écrit c'est sur les murs voilà, pour lui demander de revenir, voilà, enfin, de repartir.
Voilà. Donc, le double sens, c'est le double sens de ce film. Elle rentre à la maison et on lui dit rentre chez toi. Et ce double sens est le cœur du film. Et effectivement, moi, je ne suis pas amoureuse, mais je trouve que Golshifteh est magnifique.
Jean-Marc, je crois que tu ne l'as pas vu, Pierre.
Bah, Golshifteh est magnifique, c'est vrai. Donc je suis comme toi, on peut la voir, elle pourrait ne rien dire et la filmer dans cette maison. Alors ce qui est bien, je trouve, c'est la maison, justement. Oui. Cette maison en ruine, comme ça, dégage vraiment quelque chose et la réalise.
La maison joue bien, d'ailleurs.
Elle est très bien.
Elle est présente.
Mais elle est très présente et c'est une actrice absolument formidable. Golshifteh et la maison, c'est parfait. Le reste est un tout petit peu plus conventionnel. Quand même.
Michel ?
Oui, c'est le troisième film de fantôme. C'est le moins convaincant des trois. J'ai trouvé. Alors moi, j'ai pas été tellement impressionné par la maison. Quant à Golshifteh Farahani, j'adore comme vous la regarder. Elle est d'une grande beauté, d'une grande sensibilité. Mais il faudrait qu'on lui donne des rôles un peu plus substantiels. Bah, on va la voir dans Patterson où elle fait des petits gâteaux toute la journée en attendant le retour de son
très, très
conducteur de bus.
Ouais.
Mais, je trouve que c'est une actrice qui n'est pas, elle est incontestablement d'une grande sensibilité, une grande beauté, mais elle n'est pas utilisée comme elle pourrait l'être.
Elle a un nombre de rôles au cinéma absolument magnifique et aussi au théâtre.
Je parle de cinéma. Oui, je trouve le film. Je préférais de loin le documentaire de cette réalisatrice.
Pays rêvé, oui.
Pays rêvé, qui était beaucoup plus intéressant que ce film-là. C'est encore le syndrome Herzog.
De Gian. Oh non, tu vas pas comparer ça.
Non, le syndrome entre les talents du documentariste et le.
De Gian Chouaïb, qui est encore une fois un premier long métrage de fiction. Allez, un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Daniel.
Alors, moi, je conseille un recueil de nouvelles de M. Ted Chiang. Et une de ses nouvelles, c'est celle qui a donné Premier Contact. Et c'est vraiment un auteur de science-fiction. Son nom est un peu chinois, mais il est américain. Et c'est absolument
passionnant. Et tout le livre est de cette qualité.
Qualité. La première nouvelle, La Tour de Babylone, est absolument grisante. Et c'est toujours un peu philosophique, métaphysique. Et c'est brillantissime. Et c'est chez De Noël.
Le conseil de Jean-Marc.
Alors, c'est un film sur lequel le masque reviendra dans une prochaine édition, mais j'avais envie de dire à quel point je l'aime beaucoup. C'est Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan.
Film magnifique.
Voilà, c'est le troisième film de ce cinéaste. Les deux premiers étaient un peu passés inaperçus.
En 16 ans, il a fait à 17 ans, il a fait trois films.
Moi, c'est le premier que je vois de lui. C'est vraiment un très, très grand film. Il y a quelque chose aussi puissant que lorsqu'on a découvert les premiers films de James Gray. Il y a une puissance émotionnelle. Le Casey Affleck est d'ores et déjà favori pour les prochains Oscars. Il est génial dans le film.
L'histoire est magnifique.
L'histoire est bouleversante.
C'est un long film.
Oui, de plus de 2 heures, mais c'est le temps qu'il faut pour la compréhension totale de cette histoire extrêmement complexe.
Des rapports humains incroyables.
Oui. Pierre.
Une reprise de Lino Broca qui s'appelle Manille. Un film philippin qui date de 1975. On a déjà vu un film de Lino Broca il y a quelques mois, Insiang, qui était ressorti. Et c'est une variation sur Orphée et Eurydice dans Manille, c'est-à-dire que il va chercher cette femme qui a disparu dans cette espèce de grouillement de Manille. C'est absolument formidable. C'est à la fois très charnel et en même temps très politique, puisqu'on voit comme ça au détour d'une manifestation, ce qui était rare à l'époque, des manifestations anti-Marcos, comme ça, comme contre les dictateurs. C'est vraiment... Mais Lino Broca est presque oublié aujourd'hui et c'est un réalisateur majeur. Donc ça s'appelle Manille.
Donc en fait, on peut aller voir Marosa et puis après aller revoir la sortie de ce Broca-là.
Voilà. Manille.
Le conseil de Michel.
Alors c'est un film israélien, Tikkun. C'est le deuxième film de Avisha Sivan, qui avait déjà fait Le Vagabond, ce qui est un cinéaste absolument étonnant. Alors, c'est un film en noir et blanc sur un sujet, sur un orthodoxe un peu très très rigoureux.
Ça c'est un peu pléonastique, parce qu'un orthodoxe rigoureux, c'est...
Dans une yeshiva et qui meurt au début du film. Et depuis Hors d'aide de Dreyer, j'ai jamais vu une résurrection aussi impressionnante. Son père le ressuscite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'être ressuscité ne va pas accentuer sa foi, mais au contraire, il va dériver vers les plaisirs charnels, c'est-à-dire que ça le libère complètement, cette résurrection. Et c'est un film en noir et blanc, un scope d'une beauté incroyable, c'est vraiment un grand cinéaste, et donc je recommande effectivement ce film Tikkun que j'ai découvert au Festival de La Rochelle et qui a été primé à Locarno, qui est vraiment un film à voir absolument.
Et quant à moi, pour la 27e fois, je vous propose de décerner le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Il vous suffit de désigner les deux films, l'un français, l'autre étranger, que vous avez préféré au cours de l'année 2016, sur une carte postale adressée à la Maison de la Radio ou alors par courriel sur le site de l'émission à la rubrique Réagissez franceinter.fr, et cela évidemment avant le 31 décembre. Ce qui nous permettra de fêter vos résultats au cours d'un Masque et la Plume spécial au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne, Pierre Murat et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet à la technique, il y avait Jean-Michel Bernot, Victoria Asper et même Philippe Mercher. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 5 janvier. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre à la littérature. On parle à nouveau de films la semaine prochaine. Et je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.